Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver pour partager ces 57 minutes interactives sur Radio Okapi. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange de citoyens sur la fréquence de la paix. Trois semaines après la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, 20 candidats sur 21 n'ont toujours pas de garde pour leur protection, comme le prévoit l'article 110 bis de la loi électorale. Il dénonce donc une protection inégale attribuée aux candidats du FCC. Et par ailleurs, à 2 mois des élections, plusieurs foyers d'insécurité s'observent à travers le pays. Certains observateurs estiment que cette affaire relance les débats sur la sécurisation du processus électoral dans sa globalité. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6330 ou encore au 09-97-06-6330 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à ceux qui ont déjà lu et commenté ce sujet et surtout merci de l'intérêt que vous accordez à nos échanges. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Pendant ces 57 minutes interactives, Alain Goy est à la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et la Meji sous la supervision de Martin Sebujangui. Ces programmes vous êtes coordonnés et présentés par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Pierrot Mwanamputu, qui est le porte-parole de la police. Je vous appelle mon colonel ou je vous appelle comment?
Ben, comme vous voulez, vous m'appelez colonel de police, commissaire supérieur, ça change rien.
Commissaire supérieur.
Affirmatif.
Supérieur et en même temps, vous êtes porte-parole de cette police. Alors, d'entrée des jeux, d'abord, l'inquiétude de certains candidats à la présidentielle tient réellement sa route.
Par rapport à quelle question?
Parce qu'ils estiment que aujourd'hui, en rapport avec l'article 110 bis de la loi électorale, le traitement est inégal entre les candidats en ce qui concerne leur protection.
Et voilà, je voulais vous rappeler tout d'abord le libellé de l'article 110 bis de la loi électorale qui dit qu'à la date de la publication de la liste définitive des candidats à président de la République, tous les candidats ont droit à une égale protection. Chaque candidat président de la République bénéficie d'une garde de 25 policiers afin d'assurer sa sécurité jusqu'à l'investiture du président élu. Et que le frais de prise en charge, cette garde, sont imputés au trésor public. Et je voulais vous dire ceci. Par rapport à votre question, je sais que vous parlez du candidat FSC qui est accompagné avec l'escorte de police. Ben, je vous l'avais dit autrefois, je ne sais pas répéter, même dernièrement lors d'une émission au niveau de Radio Capi, j'ai dit que les usages de la police autorisent que lorsque certains membres de l'exécutif national ont eu à assumer de lourdes charges ils ont eu à gérer des secrets d'État, et lorsqu'ils sont déchargés de ces fonctions-là, il était accepté qu'ils bénéficient d'une garde rapprochée, réduite, et pourquoi pas d'une certaine mobilité. C'est le cas d'espèce du candidat FSC. Je crois que ça ne fait même pas 6 mois qu'il est parti de là. Et puis, pour les autres candidats, ça sera fait, parce que je vous ai dit qu'au sortir de la réunion du comité de pilotage de la sécurisation du procès électoral tenu par le vice-président, par le président de cette structure, j'ai parlé de son excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécurité. Il a été adjoint à la police de s'y atteler avec diligence afin de d'apprêter les 25 policiers qui font le total de 525 pour sécuriser les...
Et pourquoi cela n'a-t-il pas été fait immédiatement? Parce que selon l'esprit et la lettre de la disposition.
Un instant. Cela appelle de la logistique aussi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pour une bonne préparation. Et je vous dis que cette semaine, monsieur le conseiller général qui était en tournée, il revient fraîchement de Kinshasa parce qu'il a passé 3 semaines à l'intérieur du pays pour procéder à l'inspection de nos unités ainsi que mm-hmm. les éléments 12 000 hommes par semaine dans différents centres de la puissance congolaise pour être formés en prévision de la sécurisation du procès électoral. Et il projette convoquer une réunion du Centre national des opérations, c'est-à-dire il sera assisté de son vice-président, un membre du bureau de la CENI, où on procédera à l'invitation de 21 candidats pour échanger et définir ensemble les modalités pour l'affectation de 25 policiers.
L'effectivité d'exécution de cette disposition.
Parce que sans compter, on n'affecte pas 25 policiers comme ça avec armes et munitions sans que l'utilisateur en soit briefé en avance. Hein. Mm-hmm. C'est pour certains candidats présidents et je ne dis pas que c'est pour la première fois, mais est-il que ce sont des dispositions à prendre. Sinon, les bavures sont signalées. Hein, et puis, utiliser les policiers à autre
chose. Est-ce que les bavures, c'est au niveau de ceux qui sont commis à cette garde ou au niveau des candidats
Non, non. L'utilisation, parce que l'utilisation de ces policiers-là doit faire l'objet de modalités pratiques pour dire, voilà, les policiers ont commis à votre sécurisation. Voici ce qui est permis, voici ce qui n'est pas permis. Mm-hmm. Je crois que ça mérite d'être dit, non?
Ok.
C'est pas mauvais pour ça.
Mais oui, mais je reviens encore sur ma question. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'il n'y ait pas l'immédiateté de l'exécution de cette disposition? Dès lors qu'on sait que la police est engagée dans cette démarche de pouvoir sécuriser le processus depuis bien longtemps, depuis même 2012 avec la formation, 2015 avec la formation, les modules, les fameux modules remis par la MONUSCO à la police nationale pour recycler les policiers et les préparer par rapport à ça.
Non, c'est juste les préparations d'ordre logistique qui ont un peu pris du temps. Mm-hmm. Mais en dehors de cela, il n'y avait pas... ce que vous pouvez penser comme aller le penser.
Hein. Et vous l'avez annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, les 15...
Non, j'ai dit la semaine, cette semaine.
Cette semaine, oui, les 15, c'était cette semaine. C'était pas aujourd'hui, les 15.
Non, pas du tout.
Oui, parce que dans le chef des uns et des autres, on pensait qu'effectivement, c'est à partir de ce lundi que d'autres candidats bénéficieront de ces gardes.
Non, je crois que vous avez une lecture de cette annonce. Mais voilà, je vous dis qu'il faut qu'il y ait tout d'abord une réunion invitant les candidats pour échanger et définir des modalités, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est au cours de la semaine ici, tout sera fait, il n'y a pas de souci pour ça.
Mm. Alors, à quoi consiste réellement cette sécurisation du processus?
Vous savez que nous allons commencer par vous dire que la période électorale est plus souvent le moment le plus difficile parce que c'est un moment de grande tension sociale et politique entre les forces politiques en présence par rapport aux enjeux politiques qui représentent les postes à pouvoir. C'est-à-dire, il y aura des élections au niveau de la chefferie jusqu'à la présidence de la République. Et voilà pourquoi, au regard de toutes ces agitations, il devenait impérieux de mettre en place un plan opérationnel pour que la police nationale en appui d'autres services ou des forces de défense et soit appelée à sécuriser l'ensemble du processus électoral et que tous les longs processus qui aient de la sérénité, que la sérénité ne soit pas rompue. Bon, à cet effet, le décret 05-026 du 6 mai 2005 portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral, à son titre 1, article 1, stipule qu'en vue de faire face aux menaces et risques susceptibles de perturber le déroulement des élections en République démocratique du Congo, il a été établi un plan opérationnel pour permettre d'assurer dans les meilleures conditions la sécurisation de l'ensemble du processus électoral. Alors, quoi et qui doit bénéficier de la sécurité? Et vous savez, conformément aux prérogatives constitutionnelle et légale de la commission électorale, c'est-à-dire commission de la CENI. Le président avait publié une décision numéro 065 CENI Bure -17 du 5 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Il en ressort que le dimanche 23 décembre 2018, ce sera une journée de scrutin direct combiné présidentiel, législatif.
Voilà. Avant de d'ouvrir les standards, si je comprends bien, monsieur le commissaire supérieur, la base légale de sécurisation du processus électoral, c'est les décrets que vous venez de citer, 05/026 du 6 mai 2015, qui au fait porte sur un plan opérationnel.
Oui.
Alors comment se définit ces plans opérationnels? Concrètement.
Alors, le plan opérationnel vise tout d'abord la protection des institutions publiques, la protection des personnes et des biens, et aux approches des échéances électorales, la police. C'est-à-dire le plan en lui, le plan s'appuie grandement sur la police nationale congolaise. C'est en dehors, n'est-ce pas, sans préjudice des missions ordinaires. Et des missions spécifiques sont définies dans le cadre de ces décrets-là pour que la police...
Oui, entre autres, la protection du personnel, du matériel et des infrastructures électoraux.
Oui.
Aux approches. Et surtout si nous référons au dernier cas, à Ubundu, un agent de la CENI qui sensibilisait, mais qui a été enlevé.
Mais justement, oui. Donc, nous sommes appelés, par rapport, n'est-ce pas, à ces missions spécifiques, c'est de protéger, n'est-ce pas, les patrimoines de la CENI, les infrastructures de la CENI, les comités électoraux, les témoins, les observateurs accrédités, les électeurs, c'est-à-dire les compétiteurs, et les institutions publiques, les personnes, les biens, et pourquoi pas les journalistes que vous êtes aussi. Les journalistes de la radio, télévision, des journaux, et sans compter, sans oublier les amis qui sont en ligne. Aussi, à s'assurer de la libre
circulation,
la libre expression,
libre expression.
Et lors de campagne électorale, qu'un groupe n'aille pas attaquer un autre, n'est-ce pas? Et puis nous sommes aussi appelés à renseigner la hiérarchie par rapport, n'est-ce pas, à la surveillance des troupes et communiquer, avoir une communication permanente.
Est-ce que la police peut aussi empêcher disons un groupement politique ou une plateforme politique qui s'engage dans une période électorale sans le go de la CENI? Parce que c'est une des règles du jeu.
Un instant. Et à la période de la campagne électorale, nous serons obligés, nous, de sécuriser les déroulements, les bons fonctionnements de la campagne
électorale. Mais pendant cette période préélectorale.
Pendant cette période électorale, vous savez, pour avant...
On a interdit aux partis politiques de faire débattre campagne. Mais ceux qui les font, est-ce que la police peut interdire des manifestations?
Un instant. Il est dit que la période de la campagne électorale n'est pas encore décrétée. Si vous voulez, vous parlez à votre public, moyennant, n'est-ce pas, une manifestation publique en plein air, vous connaissez
la procédure
en la matière. C'est de faire...
De saisir l'autorité civile, l'autorité de la ville.
Oui, d'informer l'autorité et bouder l'organisateur ainsi que l'autorité politique administrative en charge de l'ordre public. Il va vous inviter avec le pouvoir de concertation que vous avez. C'est de définir des modalités. Si vous tombez d'accord, et par rapport, n'est-ce pas, au jour, l'heure et les lieux, l'autorité politique administrative va instruire la police nationale congolaise pour qu'ensemble vous puissiez vous rencontrer et
discuter
sur les contours, n'est-ce pas, de la prise en charge pour la sécurisation, de voir est-ce c'est une procession pour que la zone de rassemblement soit sécurisée, les longs de la procession soient sécurisés jusqu'au point de chute. Si ce n'est pas le cas, c'est de vous retrouver à la zone de rassemblement, au point de chute pour les élections, pour les meetings. Mais dans le cas des Suisses, la police, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit ceux qui sont disciplinés, ceux qui se chargent de la discipline dans le camp des organisateurs, parce qu'ils connaissent très bien les fauteurs de troubles, les meneurs, et la police leur dit, vous allez sécuriser vos membres, vos sympathisants, vos partisans, nous nous mettons de côté, mais dès que vous sentez que vous avez difficile à mettre la main, à maîtriser un fauteuil de troubles mineurs, vous faites appel à la police parce que nous sommes juste à quelques tablures de là, pour que nous venons, n'est-ce pas, vous sécuriser. Voilà au moins les dispositifs qui sont pris, prises pour les manifestations qui sont avant la campagne électorale.
Voilà. En résumé, avant d'ouvrir les standards pour permettre aux auditeurs de réagir, on note que la sécurisation des élections trouve son fondement juridique dans les décrets numéro 05/026 du 6 mai 2015 portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral. Et ces décrets constituent la base légale de toutes les activités dans le cadre de l'organisation et de la sécurisation de les élections. Alors là, ça vise notamment la protection des institutions publiques, comme vous l'avez dit, la protection des personnes et de leurs biens, la protection du personnel, du matériel et des infrastructures électoraux, la libre expression aux élections, le renseignement opérationnel policier, la coordination opérationnelle entre tous les acteurs qui agissent dans les cadres de sécurité en République démocratique du Congo. Et enfin, la communication permanente avec la population en vue de l'informer de mesures de sécurité. Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir les standards dans quelques instants pour permettre à ce que les auditeurs puissent réagir sur cette question de sécurisation du processus électoral. 09 97 06 6330 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention directe.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiookapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiookapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour.
Quelle est votre réaction, Sylvain?
Bien. Comme je l'ai toujours dit, c'est que les élections constituent des moments essentiels pour la vie démocratique des nations. Je viens de suivre là mon frère, mon amputou, le porte-parole de notre police nationale congolaise. Il est salué en passant. J'ai bien suivi ce qu'il a dit. Mais ici, je voudrais que nous puissions circonscrire le débat dans le cadre de la vie de notre démocratie. Lorsque vous voyez comment les choses se passent chez nous en RDC, nous allons aux élections dans une situation très tendue entre les acteurs. Et non seulement la situation est tendue, mais aussi nous sommes dans une situation pratiquement de méfiance absolue entre les parties prenantes du processus électoral. Comme je l'ai dit, c'est qu'il y a certaines choses qui constituent des couacs entre les parties prenantes. J'avais cité la question de la machine à voter, la problématique du financement du processus électoral, mais aussi des questions techniques liées aux électeurs avec problème d'appel digital. Alors lorsque nous sommes déjà dans un processus électoral avec un déficit de niveau de confiance, mais aussi avec des doutes qui règnent ici et là, je crois que à travers le processus de sécurisation, il est important que l'acteur majeur qui, ici chez nous, est la PNC, et peut-être à travers la communauté internationale à Monusco et qu'on sort les éléments de la sécurité de la Monusco, il faut faire ici renaître la confiance à nos acteurs. Ça veut dire en distribuant de manière équitable les services qui sont les leurs. Donc, effectivement, quand nous lisons ensemble l'article 110 de la loi électorale sur la sécurisation des candidats aux élections présidentielles qui arrivent, il faut déjà noter qu'ici, il y a déjà une anomalie. Je ne voudrais pas ici contredire l'invité de l'émission du jour, mais il faut reconnaître qu'à un certain moment donné, nous sommes au terme de la violation de notre propre loi. Puisque si lui-même a repris la loi, disons l'article est très clair. Mais aujourd'hui, je suis en train de me poser des questions. Si nous ne sommes pas entrés en cours de donner l'occasion à ceux-là qui se retrouvent toujours victimisés de continuer à faire régner l'essence de cette...
Donc si je comprends bien, Sylvain, vous n'êtes pas convaincu de la réponse que venait de donner notre invité autour de l'interprétation de l'article 110. Et vous partagez l'avis des autres qu'il s'agissait d'un effet d'immédiat. Donc c'était à l'immédiateté qu'on devait réagir et non attendre.
Voilà.
Malgré que lui l'a dit, il y a des dispositions à prendre, les conditionnalités qu'il fallait expliquer aux uns aux autres.
Pour ceux qui ont fait les droits,
il doit vous dire que lorsqu'on lit l'article d'une loi, c'est qu'on le lit à l'esprit et à l'être. Mmh. Et je ne voudrais pas insister la pédagogie autour de la lecture des lois. Mais tout ce que je retiens, et ce que je voudrais faire comprendre aux gens, c'est que nous sommes dans un processus électoral qui doit avoir un consensus national et un consensus inclusif. Et donc, lorsqu'il y a des acteurs importants qui doivent contribuer dans
le
fait de nourrir une confiance autour des processus électoraux, allô? Allô?
Allô, on vous suit, Sylvain.
Oui. Alors, je disais que lorsque nous sommes dans un processus tel que les élections, il faut un minimum de confiance. Mmh. Mais la confiance vient d'où? La confiance vient des acteurs qui participent au processus électoral. Je voudrais qu'on note au moins deux ou trois choses. La première chose, c'est que nous avons évolué dans un environnement où la police était hostile à un groupe de politiciens de ce pays. Et deuxième élément, après avoir déposé les candidatures, le même groupe qui se retrouve adverse, peut-être, par rapport aux autres, trouve encore que les droits sont en train d'être violés. Il faut qu'on comprenne la troisième chose, c'est que, par l'effet des conséquences, lorsqu'on veut faire mourir à quelqu'un, la position selon laquelle ses droits sont en train d'être violés volontairement, ceci crée des frustrations. Et comme vous le savez très bien, les processus électoraux voudraient que les choses se passent dans une confiance absolue. Pourquoi? Il faut prévenir en amont les questions des conflits électoraux. Nous commençons les élections chez nous en 2006, nous connaissons les résultats. En 2011, mon frère Tius qui vit avec nous connaît les résultats. Et ce qui se passe actuellement, si au niveau de l'agence de régulation sécuritaire, puisque nous parlons de la civilisation du processus électoral, qui est la PNC aujourd'hui, on ne fait pas voir un niveau de confiance élevé, je parie que la PNC risque de contribuer dans le renforcement des climats de méfiance entre les acteurs, et bien, nous risquons d'avoir des échauffourées.
Merci beaucoup.
Ce qui ne risque pas de donner crédibilité
au processus électoral. Merci beaucoup, Sylvain. Vous avez évoqué la question de la confiance qui fait, en tout cas, problème aujourd'hui et qui constitue quand même une germe de conflits ou une tension latente pour l'avenir. Merci beaucoup, Sylvain. Alain Boulogne, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à Radio Papi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Quel est votre avis, Alain, après avoir suivi notre invité?
Je crois que l'idéal serait que le candidat soit sécurisé par des agences privées que par la police. Je voudrais m'expliquer. Premièrement, je parle de ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur. Il a soulevé un paramètre important, le paramètre de la confiance. Et c'est ce qui a été dit aussi par le porte-parole de la police, votre invité. Aujourd'hui, je ne sais pas comment la classe politique ou les challengers peuvent accepter qu'on leur envoie de policiers qu'eux ne maîtrisent pas. C'est fort probable qu'il y ait de contestations. Et voilà, c'est ce qui justifie ce dialogue ou cette rencontre pour fixer les esprits par rapport à ce qui va se faire. Parce que je sais que si on envoie aujourd'hui la police, je prends le cas des 25 policiers, dans chaque résidence des candidats, eh bien, ils risquent de croire qu'on leur a envoyé des infiltrés ou de mouchards pour transmettre leurs informations.
Mais Alain, pour les élections de 2006 et celles de 2011, il y a eu quand même un bon nombre de policiers qui ont bénéficié des formations. Donc je crois qu'ils sont outillés et suffisamment pour mener cette action.
Le problème, la
question de confiance ne peut pas se poser. Ils ont bénéficié de formations du côté des policiers des Nations Unies.
Non, le problème de confiance ne se pose pas au niveau de la police, mais au niveau plutôt des consommateurs de ces policiers. Nous connaissons comment la classe politique fonctionne, nous risquons d'avoir d'autres problèmes. L'idéal serait, de mon point de vue, que les candidats soient sécurisés par des agences privées de sécurité. Ça allait être mieux, parce que là, ça allait être leur choix. Et si l'État pouvait peut-être suppléer en termes de la facturation, ça pouvait être mieux. Mais il y a aussi une autre question. Le processus électoral, la sécurisation du processus électoral ne se limite pas seulement au niveau de la sécurisation des candidats, de tout le processus. Et moi, je me dis, si nous pouvons avoir 50 000 bureaux de vote et que dans chaque bureau, on doit avoir un policier, ça nous fait déjà 100 000 policiers qui seront déployés dans le bureau. En dehors de ça, il y a besoin aussi de sécuriser les frontières aussi sur le plan interne. Est-ce que nous avons suffisamment des agents? Parce que nous voyons tous les policiers...
Voilà, donc vous mis à part la question de confiance, vous évoquez la question des effectifs. Alors Charles, vous nous avez également rejoint. Merci beaucoup Alain. Charles, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour JR.
Quel est votre avis?
Je tiens d'abord à vous remercier JR pour la parole que vous m'accordez. Et je profite rapidement pour saluer aussi les milliers d'auditeurs de la radio Okapi. Merci pour ce sujet qui est très capital pour notre pays et surtout pour cette période où nous allons commencer la campagne bientôt là et puis les élections. Hier, on dit ceci, la justice élève une nation. Si nous voulons que notre pays soit élevé, ce qui est plus capital, il serait intéressant que la justice soit au centre de tout. Pourquoi je le dis? Tu as bien lu l'article qui dit que dès que la CENI publie les résultats, les candidats retenus, X ou partout, immédiatement, ils sont dotés de policiers pour assurer leur sécurité. Mais nous avons constaté qu'il n'y a pas une justice dans notre pays. Je pense que notre invité ne va pas me contredire. Il a dit que Ramazan Djalal dit parce qu'il occupe ou bien il a occupé les postes dans ce pays. Qu'est-ce qu'il dira maintenant de Sami Badibanga, qui était aussi un ancien premier ministre de ce pays? Lui aussi, c'est un candidat. Il n'a pas bénéficié de la sécurité de Djalal. Vous voyez la raison pour laquelle les gens disent que et la police et la CENI, ils sont en train de travailler pour la majorité en place. Je pense que cette
oui, histoire... Est-ce que vous avez vu dernièrement l'entourage de M. Sami Badibanga?
Pardon?
Je ne sais pas si vous avez une idée actuellement sur l'entourage de Sami Badibanga, les gardes qu'il a.
Si vous voulez maintenant établir la différence entre Sami Badibanga et M. Ramazan Shadari. Et pourquoi pas les autres? Parce que pour le moment, ils sont tous candidats.
Selon l'esprit de l'article 110,
oui. On peut privilégier l'un pour sacrifier les autres.
Voilà. Donc si je comprends bien votre inquiétude...
S'il vous plaît, rapidement.
Oui, rapidement, parce qu'il y a d'autres qui attendent aussi.
Il y a une autorité qui nous avait dit que les policiers qu'on devait mettre à la disposition des candidats étaient encore en formation. Mais au jour d'aujourd'hui, nous constatons déjà que certains candidats ont déjà des policiers, je ne sais pas. Ce sont ceux qui sont en formation qui viendront, ou bien, moi je pense que l'invité doit nous expliquer. Les policiers qui sont en formation ont-ils déjà terminé la formation pour venir assurer la sécurité de Chari, ou bien les policiers qui sont en formation viendront après? Ça, en tout cas, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Si nous voulons que notre pays puisse aller de la frontière, nous avons besoin de la justice.
Merci beaucoup, Charles, d'avoir appelé de Kinshasa. Pour vous, c'est vrai, les problèmes de l'effectif, comme l'ont posé vos prédécesseurs, mais vous estimez que en ce moment, l'idée avancée, il fallait qu'on reste vraiment dans l'immédiateté, l'esprit dans lequel repose donc cette disposition de l'article 110 de la loi électorale, 110 bis. Charles, merci. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, monsieur les journalistes, je note que dans un État qui se veut démocratique, le respect des lois, le respect de la Constitution reste les garde-fous et ce respect démontre en suffisance que cet État veut bel et bien que le règne de la justice, les règles de l'équitabilité soient dans toutes les institutions du pays. Je crois que dans notre pays, nous avons un problème. Le problème, c'est que en RDC, les gouvernants n'ont pas l'esprit de la loi, ne savent pas respecter la Constitution. Si la loi prévoit que tous les candidats doivent être gardés par les policiers, pourquoi on doit faire des poids des mesures? Quand bien même qu'on sait bien, tout le monde le sait, que les candidats pour ceux-là qui sont au pouvoir, c'est ces candidats-là que nous les savons, les candidats de FCC, mais ces dirigeants, ces gouvernants doivent agir quand même avec les retenus au point que, en dépit de leur penchant sur leur candidat, ils doivent absolument assurer la sécurité des autres. Mais comment on doit délaisser les autres, on doit laisser les autres subir des menaces incalculables alors que la loi prévoit
la sécurisation. Donc pour vous, vous estimez qu'il y a eu non-respect de la loi. Paulin, vous êtes à Isiro, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes aujourd'hui que le plan opérationnel de sécurisation du processus électoral trouve quand même des difficultés pour être exécuté, ces plans qui parlent de la protection des candidats, la protection des personnes et de leurs biens, la protection des matériels de la CENI, la protection même des personnes commises aux activités de la CENI. Est-ce que vous avez cet esprit-là? Vous pensez à cela, Paulin?
Oui, effectivement, je pense à cela. Je crois que la sécurisation du processus électoral est à panne. Du fait que dans notre pays, comme je viens de le dire mes prédécesseurs, on n'arrive pas à respecter les lois de la République. Donc on respecte les lois de la République lorsqu'il s'agit d'un opposant. Un opposant, donc on peut l'arrêter à tout moment, on peut le malmener à tout moment. Mais si c'est un homme de la majorité, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de souci, puis on le laisse comme si rien n'était. Et sécuriser le processus signifie également qu'on respecte la loi en matière de la campagne électorale. Mais vous allez constater avec moi que, par exemple, à Issiro, il y a des effigies du candidat du FCC partout, même au sein même de la police, dans le bureau même de la police, dans la cour même du bureau de la police, vous allez trouver l'effigie du candidat de la majorité. Vous arrivez à l'aéroport, vous trouvez cela. À la sortie de l'aéroport, vous trouvez des effigies des candidats de la majorité partout. Mais est-ce que la police, elle est vraiment une police nationale? Ou c'est une police qui est donc au solde de ceux qui sont au pouvoir? Donc la police doit travailler pour tout le monde, pour tous les candidats, pour tous ceux qui sont dans l'opposition. Qui vous dit que ceux qui sont au pouvoir vont rester là demain? Et si la police, tu choisis déjà ton temps bien avant, et quand les autres ne seront plus là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Donc, notre pays, il nous faut vraiment mettre, il faut un homme capable de mettre sur pied les institutions de la République, des institutions qui vont fonctionner normalement, même si le président qui a mis ces institutions en place n'est plus au pouvoir, que cela demeure comme tel. Au lieu que nous ayons des institutions taillées sur mesure et qui fonctionnent à la tête des clients, donc ça n'arrange nullement le pays.
Merci beaucoup. Voilà, vous estimez comme les autres qu'il s'agit là de cas d'injustice qui vient en contrario à la disposition de cet article 110 bis de la loi électorale. Merci honorable Paulin Odiane d'avoir appelé à Issiro. Alors père Zénon, vous êtes à Kinshasa. Quel est votre regard par rapport à cette thématique?
Merci JR, merci à l'invité, bonjour à tout le monde. Je suis très content qu'on ait parlé de la sécurité. Vous avez beaucoup insisté sur la sécurité des candidats, moi aussi au niveau national. Et vous avez parlé de l'insécurité, elle est full dans la RDC. Ça, personne ne l'ignore. J'étais content d'entendre parler de la logistique. Je suppose qu'en ce moment précis, on est en train d'amener à Kinshasa ou au Congo en général de nouveaux véhicules, du matériel nécessaire pour protéger les machines, les personnes et tout le monde dans ce processus électoral. Pourquoi je l'ai dit? Il y a eu un moment, il y avait des manifestations ici à Kinshasa. Nous avions entendu la réponse d'un des commandants qui disait « Cette manifestation ne peut pas avoir lieu parce que nous n'avons pas assez de personnes, la police donc, pour la sécurité des gens. » Donc, l'effectif, il n'y en a pas assez pour répondre à cela. Autre chose, c'est lorsque vous avez les dimanches un match d'une équipe que vous connaissez bien, à la fin du match, j'étais témoin dernièrement, on ravit les sacs, les téléphones, au vu et aussi de tout le monde, sur Triomphal, sur Saint-Doué, et tous ceux qui vendent doivent enlever leurs histoires. Avons-nous la police à chaque match? Tous les dimanches, en aurons-nous lorsqu'il y aura ma élection? Et lorsque vous entendez la police répondre quand vous appelez au numéro vert qu'on donne, Est-ce que vous pouvez venir parce que nous sommes attaqués ici à tel coin? La réponse, tous en a moyen à transporter, soro bengborzo, bisoto botinda carburant. Est-ce que c'est fini, cette réponse-là?
Voilà.
On dit la MONUSCO n'intervient pas. Avons-nous vraiment des moyens? Quand vous quittez Lubumbashi pour la Kilwa, j'ai fait cette route plusieurs fois. Lubumbashi, Kilwa, Kilwa Pweto. Vous regardez les postes de police. Allez vérifier, il y en a combien? Je m'étais dit une fois, mais si quelqu'un veut ravir tous ces villages ici, il les ferait un peu de temps et aucune intervention. Mmh. Et pour revenir au grand problème et terminer par là, quand, comment ça va se passer comme sécurité au niveau de Beni, Butembo, tous ces coins-là, lorsqu'avec tous les militaires qu'on a à Beni, l'insécurité est permanente?
Merci beaucoup.
C'est bien l'émission, c'est bien le projet, il faut prévoir, et nous voulons tous cela.
Merci
alors
beaucoup.
J'ai dit, allez de l'avant, c'est une bonne émission, que l'intervenant puisse parler régulièrement aux autorités de cela. Qu'on enlève à la télé, à la radio nationale, les danses, les églises et le sport. Nos équipes du Congo qui sont en Espagne,
merci.
Vous les connaissez,
voilà.
Les
merci
équipes congolaises qui sont
Père
en Espagne,
Zeno.
La jeunesse est distraite par ça. Mettez-nous des émissions
sensibilisantes
sur la sécurité,
voilà.
Déjà maintenant dans nos quartiers, dans notre ville, dans nos différentes villes à l'intérieur et partout.
Merci. Merci beaucoup pour ces conseils que vous lancez droit aux responsables des médias pour réellement accompagner ce processus de sécurisation des élections. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, commissaire supérieur, Pierrot Mwanamputu. Vous avez suivi les uns les autres. Il s'est dégagé quand même plusieurs sous-thématiques, hein, dans la thématique que nous évoquons tout à l'heure, le problème d'effectifs que la police compte déployer pour la sécurisation en ce moment. Et puis, le niveau de la formation de la police congolaise, le rôle des policiers actuellement avec la collaboration avec les partenaires et aussi le besoin en équipement. Alors, je crois que dans l'ensemble, et la question de la confiance et tout ça entre dans les préoccupations des uns et des autres.
Merci beaucoup, Gien. Je vais répondre une globo à M. Sylvain, à M. Alain, à M. Charles, à M. Marie-Paul, à M. Paulin et au Père Zénon. Je vais ramasser ça de manière globale. C'est-à-dire que la préoccupation de la neutralité de la politisme est bien définie dans le décret 05/026 du 6 mai 2005 portant plan opérationnel de sécurisation des positions électorales. Il est dit pour garantir la neutralité et le caractère de la politique dans la mise en œuvre du plan opérationnel, et ce plan opérationnel de sécurisation des positions électorales s'assure du respect des droits humains, de lois et règlements de la République, singulièrement les principes légaux relatifs à l'organisation des élections. Donc on recommande à la police d'être au milieu du village pour sécuriser tous les comptes.
Est-ce qu'elle est vraiment au milieu du village?
Bon, vous savez, généralement...
Parce que cette question-là, c'est aussi discutable.
Généralement, je vais vous dire...
Je ne sais pas si vous l'acceptez, monsieur le porte-parole, que c'est discutable.
Vous voulez pas me laisser le temps de...
Non, discuter. Allez-y, donc, allez-y.
Généralement, vous savez, la sentinelle, elle a toujours été très mal perçue dans sa fonction. Et je vais vous raconter l'anecdote qui peut-être va vous édifier tant soit peu. Il y avait une sentinelle qui, apparemment, aux yeux de son patron, le rendement n'était pas effectif. Et la sentinelle était l'objet de plusieurs opprobres, de plusieurs insultes, de plusieurs traitements dégradants. Alors un jour, la sentinelle a pris la décision de démissionner à 23h59. Et il frappe la porte de son patron, il dit, patron, j'ai une communication à vous faire. Il dit, c'est laquelle? Il dit, je vous présente ma démission. Le patron dit, mais c'est bien beau, mais revenez, faites ça le matin. Il dit, non, moi je travaille la nuit et je démissionne la nuit. Il a jeté ses arcs, ses fléchettes, il est reparti. Alors, le patron, dans sa maison, il avait beaucoup de biens, beaucoup de véhicules et un manguier. Et la nuit, il y a eu la tempête, il y a eu l'ouragan. Et les mangues tombaient sur la toiture. Toutes les fois qu'une mangue tombait, il disait à sa femme,
Paulina.
Mamibi Wakoti. C'est-à-dire, les gangsters sont entrés. Jusqu'au petit matin, il n'a pas
fermé l'œil.
Et quand il s'est réveillé le matin, il revoit la centenaire venir pour récupérer son dû. Il lui dit, non, Gabriel, je ne savais pas que tu avais un métier si difficile. Et d'ailleurs, pour la circonstance, j'augmente ton pécule. C'est-à-dire quoi? C'est quand vous dormez, vous ne vous rendez pas compte du travail que la police fait pour vous sécuriser. Et le matin, vous vous réveillez, vous prenez votre voiture, vous revenez sur la chaussée, vous allez, et après vous dites, n'importe quoi, ces gens-là, ils ne foutent rien. Voyez-vous? J'ai parlé en parole pour dire que non. Si nous n'étions pas là, la population n'allait pas vaquer librement ses occupations.
Vous êtes là, il y a un plan opérationnel par rapport au décret qui définit d'ailleurs les missions assignées à la police.
Bien sûr que...
Mais sur les terrains, ce n'est pas ce qu'on constate.
Non, je venais de vous rappeler.
À Ubundu, on vient d'enlever un agent de la CENI.
Vous savez, la criminalité, c'est dans un pays. Et lorsque vous visitez les statistiques de la criminalité à travers le monde entier, nous ne sommes pas un pays le plus criminogène à travers le monde. Vous savez, il y a des pays où, à la minute, le nombre de morts, d'enlevés, de la mer à mer, de meurtres, d'assassinats.
Donc si la police n'était pas là, ça allait être pire que ça, ouais, ce que nous avons.
Mais bien sûr que oui. Vous savez que nous n'avons pas le droit à la grève. Vous imaginez, un matin, vous réveillez, vous trouvez que la police de circulation routière a fait la grève sur la chaussée. Vous
mais avec quel effectif?
Attendez, vous allez vous promener? Non. Mais avec le peu là que nous avons, mais nous arrivons, n'est-ce pas, à faire qu'il y ait fluidité, n'est-ce pas? Mais il y a un problème d'indiscipline ou d'incivilité des usagers, c'est tout. Donc, écoutez, je vous dis que c'est bien beau, nous prenons toutes ces remarques de la population, de nos auditeurs, et que nous avons notre bureau d'analyse, nous allons les analyser pour voir quelles sont les mesures adéquates à prendre. Et je voulais dire ceci, c'est que nous ne sommes pas est en train de ne pas savoir qu'il y a des menaces pour...
Des candidats.
Non, qu'il y a des menaces pour le bon déroulement du processus électoral. Nous avons déjà répété ces menaces-là, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous parle de l'intolérance politique et du discours incendiaire de certains leaders politiques, ce sont aussi des menaces, même de perturber le processus électoral. Et il y a des partisans qui sont instrumentalisés, des sympathisants, des jeunes, des évrés, des militaires démobilisés à des fins électoralistes.
Ça, pas seulement du côté de l'opposition.
Non, je vous parle.
Des parts et d'autres.
Je n'ai pas cité, je vous dis, des menaces que nous avons listées.
Parce qu'un auditeur rassemblé comprend qu'il y a des menaces, c'est souvent du côté de l'opposition quand on veut gérer.
Nous avons listé des menaces à même de perturber le processus électoral. Prenez votre temps, patience, vous allez les écouter. Les conflits interethniques, ce qui se passe entre les Lendo ainsi que les M, sont des menaces à même de perturber le processus électoral. Les conflits armés à l'Est, les agressions par le groupe terroriste à Defnalo. Vous avez le banditisme, le gangstérisme des rues dans le grand centre urbain. Nous avons parlé du phénomène Kouluna, sans oublier les enlèvements et les vols armés. Nous avons les rumeurs, les fake news, n'est-ce pas? Alors que la nouvelle n'est pas celle-là, l'information n'est pas celle-là, on l'attribue à tort pour nuit. Si il y a un déploiement tardif des kits électoraux, cela peut causer, n'est-ce pas?
Mais ce qui est plus curieux, des auteurs de toutes ces menaces-là, c'est ces mal opposition.
Je n'ai pas dit ça.
Parce qu'on voit la police présenter des criminels qui sont des mèches avec certains candidats de l'opposition qui commandent ou tirent les ficelles de l'extérieur.
J'ai l'impression que tu as peur, que tu ne voudrais pas que je continue à lister les menaces.
Non, allez-y. Okay. D'ailleurs, ça nous aide.
Et en voici d'autres menaces. La contestation ouverte, n'est-ce pas, de la machine à voter par certains leaders politiques et une certaine opinion internationale, et la présence des électeurs enregistrés sans empreinte digitale dans les fichiers électoraux. Et, pour atterrir, la transition sans Kabila. Voyez-vous, les leaders politiques d'une certaine catégorie qui disent que pour qu'il y ait des élections crédibles et indépendantes, il faut que l'actuel président de la République cède sa place sans qu'il y ait passation de pouvoir démocratique. Ce
sont des menaces à même de perturber le bon déroulement de l'élection. Maintenant qu'ils sont listés, maintenant allons-y. Et nous nous sommes prévenus, nous avons une venture sur ces menaces-là, et nous sommes en train de prendre des mesures adéquates par rapport à cela. S'agissant des effectifs, nous avons eu à sécuriser les élections en 2006,
2011.
Je pense que, mais actuellement, il y a un défi majeur à relever parce que nous avons pas moins de 80 000 bureaux de vote, il y a 6 000 groupements éparpillés dans les 145 territoires. Et vous dire que si on compte.
Un policier par bureau, est-ce que c'est suffisant?
Non, c'est pas un problème. Nous avons dit que nous avions les 12 000 hommes en train de former pour apporter des éléments frais, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et ajouter aux effectifs de la police. Mm-hmm. Hein? Moi, je ne veux pas ici vous donner l'ombre exact des effectifs de la police à la radio. Mais je vous dis que nous sommes là.
Alors, les besoins en équipement.
Mais c'est tout à fait normal. Quand il y a un besoin qui vient, il faut lister les équipements à même des moyens, c'est-à-dire nous donner des moyens.
Mais parce qu'on a eu les élections en 2006-2011, je crois que la police a déjà les topos par rapport à cette question.
Mais il ne se pose pas de problème. Le matériel, ça s'enlise. Le matériel, ça vieillit. Le matériel est mis.
Est
appelé à être amorti. Mais ça s'appelle un remplacement. Alors, je vous dis que pour la formation, nous avons déjà 12 000 hommes en train, n'est-ce pas, d'être formés, qui viendront récompléter et appuyer les effectifs existants, et le matériel, la logistique, on s'y apprête parce que d'ici des mois, nous avons déjà les élections en vue. Donc je crois que c'est lui qui ne s'y prépare pas et ne pourra
pas. Voilà. Alors, on va revenir à vous pour parler de ce budget de sécurisation des élections. Dans quelques minutes, il est temps de prendre Gaston qui est à Kinshasa, Amissi à Kindou et Félicien à Kinshasa. Gaston, vous êtes avec nous. Bonjour, Gaston.
Bonjour, Pierrot.
Voilà, Gaston, vous avez la parole.
Merci pour la parole. Moi, je commence par faire une petite observation au colonel qui est invité avec vous. Personne n'a dit que la police ne travaille pas, parce que lui, en répondant, il a réagi directement par rapport à ça. Mais je ne voudrais pas aussi que le colonel fasse voir aux yeux du monde que quand la police sécurise sa population, c'est extraordinaire. Une police a pour mission de sécuriser son peuple dans la nation. Donc ce n'est pas spécial quand c'est ce travail qu'ils font. Je voulais dire une chose. Des revendications telles que la sécurisation des candidats, c'est ça ce que les opposants doivent faire. Je ne suis pas d'accord avec l'argument que le colonel a donné, qu'il y a certains candidats qui ont assumé certaines fonctions dans les pays. Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale. C'est une raison qu'il soit aussi exécuté par des policiers. Matungulu fut ministre des Finances. Mais ce n'est pas le cas. Et quand il a lu l'article, moi j'ai bien suivi quand il disait, on n'a pas dit qu'à la date de la publication, de liste définitive, la police va entrer en pourparler avec les candidats. On n'a pas dit ça. À cette date-là, on devait octroyer directement les
poules. Alors, je reprends pour une meilleure compréhension. Article 110 bis qu'on a inséré en 2011. À la date de publication de la liste définitive des candidats présidents de la République, tous les candidats ont droit à une égale protection. Chaque candidat président de la République bénéficie d'une garde de 25 policiers afin d'assurer sa sécurité jusqu'à l'investiture du président élu. Donc vous pensez qu'il n'était pas question de vous parler avec des candidats, encore avec la police. Donc c'est faire un peu de trop. C'est ça, Gaston?
Nous avons suivi nous tous aujourd'hui les 15. Nous croyons que c'est aujourd'hui qu'on devait octroyer, mais il n'a pas répondu à la question. Il vous a dit que cette semaine, il y a des préalables à faire, alors que la loi dit qu'à date de publication, à date définitive.
Donc la disposition n'évoque pas de préalables.
Il n'y a pas de préalables. En plus, je voulais poser la question au colonel Pierrot, qui est le porte-parole. Pourquoi le cortège de M. Corneille Nanga prend toujours le sens opposé sur la route? Est-ce que Nanga aussi a des exigences sécuritaires? Parce que la police utilise toujours le sens unique, qu'ils ont toujours des urgences. Corneille Nanga, toutes les fois que nous croisons son cortège, il suffit qu'il y ait un petit embouteillage, il prend le sens unique. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi Nanga doit faire ça?
Merci beaucoup, Gaston. Amis, si vous êtes à Kindou, rapidement, vous avez également la parole.
Ok. Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre avis, Amis? Voilà.
Mon avis est clair, monsieur le journaliste. Moi, je suis en train de me poser la question. Là où il y a une loi électorale, dans son article là, 110 bis là, qui donne droit au candidat président un nombre de 25 policiers pour leur sécurisation. Alors je suis en train de me demander pourquoi aujourd'hui ça doit faire un sujet de débat. alors ça devrait se faire automatiquement. Alors ça me pousse aussi à me demander, est-ce que cette police, cette armée, n'est pas politisée? C'est-à-dire quoi? Cette armée, cette police, n'obéisse qu'aux ordres du pouvoir en place. Alors que la police devrait obéir
aux ordres
de la République démocratique, aucun politique. Alors, moi, je suis en train de me demander encore une autre question. Il y a le problème de non-respect des tests. Les policiers ne lisent pas les tests. Moi, nous vivons...
Donc, vous évoquez la question de la formation des policiers. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Amizi, parce qu'on n'a plus assez de temps. Sinon, on allait vous accorder suffisamment de temps pour développer votre idée. Le temps est terminé avec Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quel est votre avis, Félicien? Vous êtes le dernier auditeur qui va permettre à ce que notre invité puisse balayer toutes les questions.
Oui, moi, je dirais que là où on a besoin de construire, là où on a besoin de bâtir une nation, une patrie, et la loi seule suffit pour conduire les pays à bon port. Nous, nous avons été faire une constitution qui est vraiment très bonne, mais qui devrait être une constitution pour des peuples civilisés. Or, nous ne le sommes pas. C'est ça qui fait que nous avons des difficultés pour appliquer la loi. Pour exécuter ce qui est dans la Constitution. Et comment pouvez-vous comprendre que ceux sous d'autres ceux sont appelés élites et qui encadrent la population, ici c'est chez nous, ce sont des médiocres et qui voient les choses dans le sens de leur intérêt personnel, de leur vente.
Merci beaucoup, Félicien.
C'est la population qui cherche à redresser.
Voilà, merci beaucoup, Félicien. Je crois qu'on va conclure avec notre invité. D'abord, commissaire supérieur, vous allez ramasser les préoccupations des uns et des autres, mais aussi la question du budget. Aujourd'hui, il est estimé à combien le budget de sécurisation des élections?
Bon, le budget de sécurisation des élections, je crois que c'est le domaine de la loi. Ceux qui sont à même, n'est-ce pas, d'avoir une préoccupation peuvent aller consulter la loi à ce sujet-là. Nous n'allons pas en débattre au niveau des radios.
C'est des deux. Parce qu'à l'époque, bon, on parlait de 53 millions de dollars.
Non, c'est inscrit dans la loi financière.
Dans la loi.
On a calé, fait c'est là-bas. Écoutez, vous savez, il n'est pas question des missions ordinaires de la police ici que nous sommes en train de discuter. Nous sommes en train de discuter des missions spécifiques édictées par le décret 05/026 du 6 mai 2005. Ce décret qui a donné des missions spécifiques à la police. Nous ne parlons pas des missions ordinaires de la police nationale, traditionnelle, nous les connaissons tous. Donc ce n'est pas une mission spéciale de sécurisation de la population, pas du tout. Écoutez, donc ces missions spécifiques-là, c'est en soi, c'est de sécuriser avec professionnalisme. Ce texte, ce décret nous demande de sécuriser les échéances électorale avant, pendant et après, avec professionnalisme, sans évision de sang, zéro mort, et que le défi que nous avons, le défi majeur de sécurisation de ces élections, c'est la maîtrise et l'encadrement des troubles éventuels, qui peuvent être des troubles à caractère général ou localisé, susceptibles de perturber les déroulements et le processus électoral. Et donc, je crois que c'est de manière que je viens de résumer les préoccupations des uns des autres, mais spécifiquement je voulais dire à Félicien, à qui j'ai beaucoup de respect, et qu'il doit reconnaître que la police, je crois qu'il est tenté d'entendre, que c'est plein de mains expertes, et que nous avons été à l'université avec eux aussi, et généralement peut-être qu'ils n'ont pas été des mains lauréats de la faculté et qu'ils s'en souviennent. Mais nous avons voulu servir la nation dans ce secteur-là. Et c'est de dire que l'application de
du décret
de termes contenus, n'est-ce pas, dans
l'article 110.
Vous savez, la loi, quand on a pris le texte de loi, il doit être explicité par le texte réglementaire. Ça, la hiérarchisation de loi.
La loi d'accompagnement.
La loi.
Pour accompagner les mesures d'accompagnement.
Il y a le règlement. C'est comme ça. Alors, dans le cas d'espèce, nous n'avons pas un règlement explicitant, n'est-ce pas, les modalités pratiques à prendre quant à l'exécution de ces cet article-là. Est-ce qu'il y a-t-il un mal de se concerter avec le candidat président de la République? Est-ce que c'est défendu, Julien?
Non, c'est pas défendu. Mais, j'ai répondu, c'est pas défendu. Et surtout que nous sommes inscrits dans cette logique des consensus, il faut que les gens se mettent sur une même longueur d'onde.
Et je voulais répondre. Et que, qu'ils ne disent pas que l'un ou l'autre
est très avantageux,
mais qu'ils voient tout d'abord tous ces opposants-là.
Voilà, on va y revenir parce que nous avons pris l'option chaque lundi de parler du processus électoral. On reviendra encore dans deux semaines sur cette question de la sécurisation. Merci mon commissaire supérieur Pierrot Moinapoutou d'avoir répondu à notre invitation. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On ne se quitte pas sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Alain Goy, Pierrot Elamegi et Martin Sebujangue, cette émission vous a été coordonnée, présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.